Ce matin, je vais nous entretenir sur le temps de la promesse. Nous allons parler de promesse. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de promesse. C'est un Dieu d'alliance. Et dans l'alliance, il y a la promesse ou les promesses. Et je suppose que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des promesses ou bien qui ont reçu une promesse. Donc ce matin, nous allons essayer de comprendre la problématique de la promesse. Parce que beaucoup ont reçu des paroles de Dieu, mais qui ne voient toujours pas leur accomplissement. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre du prophète Ésaïe. Le Seigneur parle à son serviteur et il révèle quelque chose à son serviteur. La première des choses, il dit que moi, l'Éternel, mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne pense pas comme les hommes. Je ne vois pas comme les hommes. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Première des vérités, c'est que Dieu n'opère pas comme toi tu penses qu'il va opérer. Tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu mystérieux. Et le mystère fait partie de ce qu'on appelle de la marque ou bien des marques de noblesse de Dieu. S'il n'y avait plus de mystère, Dieu ne serait plus Dieu. Voilà pourquoi il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia.
Amen.
Et ensuite, il nous explique une vérité spirituelle. Le Dieu que nous prions, il sait que pour comprendre les choses spirituelles, nous avons besoin de comprendre le langage naturel. Parce qu'il est difficile pour un homme de comprendre les vérités spirituelles s'il ne comprend même pas les vérités naturelles. Alors vous allez remarquer que dans la Bible, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'images naturelles pour nous aider à comprendre les vérités spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il a beaucoup parlé en parabole parce qu'il avait besoin d'expliquer aux hommes les vérités spirituelles mais dans un langage naturel. Et là dans Ésaïe, le Seigneur dit ceci. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige. Et vous savez tous que lorsque nous disons comme, comme ici c'est un comparatif. C'est un comparatif. C'est une illustration. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Maintenant, quelle est la vérité qui nous explique? Et c'est ça ce qui se passe avec Dieu et nous et sa parole. Il dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, il dit, ainsi en est-il de sa parole. Donc, il illustre sa parole comme cette pluie ou bien cette neige qui descend des cieux pour arroser la terre. Alors, la première des choses, vous allez convenir avec moi, lorsque nous revenons dans le passage
d'Ésaïe,
il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. La Bible ne dit pas que lorsque cette pluie tombe sur la terre, elle arrose la terre et elle fait germer la terre. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit, elle arrose la terre et il y a une virgule. Et après la virgule, on dit qu'elle féconde cette même terre. Le problème des hommes, c'est que lorsque nous recevons des promesses de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, on aimerait que ces choses se produisent à l'instant immédiatement. Alors que Dieu, lorsqu'il explique le processus de l'accomplissement de sa parole dans nos vies, il dit que la pluie d'abord arrose d'abord la terre. C'est-à-dire tu reçois d'abord la parole. Tu prends connaissance de la parole. Mais ensuite il y a une virgule. On dit qu'elle féconde la terre. Et après avoir fécondé la terre, c'est une transition. Et après, la Bible dit que et cela fait germer la plante.
Donc,
pour que la plante germe, il faut d'abord que la terre soit arrosée. Mais avant d'arriver à la germination, il y a une transition qu'on appelle le temps de fécondation, le temps de préparation. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons oublié qu'il y avait une transition. Alléluia. Alors je reviendrai tout à l'heure sur ce passage. Nous revenons dans notre livre historique. La Bible déclare que un jour, il y a eu une crise dans une tribu d'Israël. Et vous savez tous que Israël avait 12 tribus. La Bible ne dit pas que la crise qu'il y avait eu ce jour-là était une crise qui s'était passée dans la tribu de Siméon. La Bible ne dit pas que cette crise était dans la tribu de Dan. Mais la Bible précise qu'il y a eu une grande famine dans la tribu de Judas. Et non seulement on nous parle de la tribu de Judas, mais on précise de nouveau que cette famine s'est opérée dans la ville de
Bethléem.
Alors pour notre information, on dit que Bethléem Ephrata. Et Bethléem, étymologiquement parlant, ça veut dire la maison du pain. Ephrata veut dire le lieu de la fécondation, le lieu de la fécondité. Donc, une crise, une famine dans une ville qui avait une promesse. Alléluia.
Amen.
Une promesse. Lorsque le Seigneur a vu toutes les villes de Juda, il a certainement dit, bon, toi Bethléem, tu es destiné à être le lieu, la résidence du pain, de l'abondance. Alléluia.
Amen.
Mais ce qui est curieux, c'est que comment vous pouvez expliquer qu'une ville qui avait la promesse, une ville qui avait déjà une destinée tracée, on a dit que de Bethléem sortirait celui qui dominera Israël, c'est-à-dire le
Christ.
On a dit que Bethléem sera la ville de l'abondance. Mais comment vous pouvez expliquer dans le parcours, dans la marche de cette ville, dans l'histoire de cette ville, à un moment donné, il n'y a plus de pain. Vous savez, lorsqu'il y a une famine quelque part, parmi les signaux qui nous révèlent que vraiment il y a la famine, c'est lorsque le pain n'est plus accessible. Lorsque la population n'a plus accès au pain. Pourquoi? Parce que le pain, c'est l'aliment de base. Et lorsque une nation n'a plus accès à l'aliment de base, ça devient chaotique et dramatique. Et il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Est-ce que vous réfléchissez avec moi ce matin?
Il
n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Il n'y avait plus d'abondance dans le lieu qui était censé être un lieu d'abondance. Pourtant, il y avait une parole prophétique qui avait été libérée sur cette ville. Une crise s'installe. Mais non, face à la crise, la Bible révèle qu'il y a eu un homme, une famine. Et cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Celui pour qui l'Éternel est le roi. Regardez un monsieur comme ça avec un tel nom. Un nom prophétique. L'Éternel est son roi. C'est un fils du royaume. Mais un homme qui s'appelle l'Éternel est mon roi. Face à la crise, face à la difficulté, la Bible dit que Elimelech a pris sa femme et ses enfants et ils sont partis chercher la solution ailleurs. Il y a beaucoup d'Elimelech dans le corps du Christ, des fils et des filles du royaume, des fils et des filles qui ont dit que Christ est leur Seigneur, que Dieu était leur roi. Ils chantent que l'Éternel est leur roi. Ils chantent que Jésus est leur Seigneur. Mais face à la crise, face à la difficulté, quelles sont nos attitudes? Cet homme qui s'appelait l'Éternel est mon roi, face à la crise et la difficulté, la Bible déclare